Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à la prolifération nucléaire. Du 29 avril au 10 mai, les 191 États membres du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP, se sont réunis dans le cadre de l'ONU à New York. Objectif de la rencontre, préparer la conférence d'examen de mai 2020 de ce traité. La précédente s'était tenue en 2015. Regard sur ce qui s'est passé à New York et sur l'avenir de l'arme nucléaire dans un contexte international incertain et dangereux avec nos invités. Nicolas Oppet, professeur agrégé de droit public à l'Université d'Orléans, collaborateur au Centre Thucydide de l'Université Paris 2, spécialiste de la dissuasion nucléaire et directeur de La France et l'arme nucléaire, paru dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marie Collin, expert et porte-parole de la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN France, et chercheur associé au think tank GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, organisation basée à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
L'heure n'est pas à la fête sur le front du nucléaire. Il y a quelques mois, Washington annonçait son retrait d'un traité de la guerre froide, le traité INF signé en 1987, interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5500 km, chemin suivi de peu par Moscou, autant de décisions qui illustrent le démantèlement des mécanismes de contrôle des armements et qui fait craindre un retour à la course au nucléaire sur fond de climat de défiance. La Corée du Nord poursuit de son côté ses démonstrations de force en même temps que l'Iran a pris la décision de se désengager temporairement de certains points de l'accord dont les États-Unis se sont totalement retirés il y a un an. Pendant ce temps à New York, je le disais en introduction, les 191 États membres du traité de non-prolifération nucléaire se réunissaient il y a quelques jours sans se mettre d'accord sur les recommandations finales que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont rejetées. Jean-Marie Collin, vous y étiez. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion de New York? Est-ce qu'on peut parler d'un climat de sécurité aujourd'hui détérioré?
Oui, et si je reprenais un peu les termes de l'ambassadeur d'Afrique du Sud dans les dernières heures de ces 15 jours de conférence, qui exprime bien en fait le ressentiment général des États, c'est-à-dire qu'une bande, un cartel, a-t-elle dit, ne veut pas procéder au désarmement nucléaire. Et donc là, elle s'adresse aux 5 puissances nucléaires qui, ensemble, en fait, se mettent d'accord pour refuser directement, c'était le cas de la France, des États-Unis, de la Russie, et indirectement, mais ils le soutiennent, puisqu'ils ne le disent pas, la Russie et la Chine, les propositions faites pour avancer sur le désarmement nucléaire. On est véritablement dans une phase où on a deux clans. L'écrasante majorité du monde qui indique qu'en termes de non-prolifération nucléaire, elle ne peut pas faire plus parce qu'elle a déjà réalisé tous les accords et ne dispose pas d'armes nucléaires. Et 5 États qui disposent d'arsenaux nucléaires et qui ne respectent pas en fait les engagements pris ces dernières années, qui sont suivis par quelques États au sein de l'OTAN, qui sont soutenus par eux. Mais on est véritablement dans un moment où la crédibilité même de ce traité, qui s'appuie sur le droit à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, la non-prolifération nucléaire, qui est évidemment extrêmement importante, et le désarmement, mais c'est ce dernier point, le désarmement, qui non seulement n'avance plus, mais est en net recul puisque ces 5 États, ensemble, modernisent et renouvellent tous leurs arsenaux nucléaires de concert. Et de concert ne veulent pas réaliser leurs engagements au désarmement. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui et il y a une vraie crainte sur l'esprit et le respect de la lettre de ce traité sur les prochaines années.
Alors, je vais vous demander un commentaire, Nicolas Oppet. Après ça, j'aurais évidemment cette question, Jean-Marie Collin, comment finalement demander aux États dotés de l'arme nucléaire, de renoncer à leur force nucléaire, lorsque existent parallèlement des États, 4 peut-être plus, qui en disposent hors TNP et qui, eux, ne semblent nullement engagés dans un processus de réduction de leurs propres armements. Alors, pour commencer, peut-être, Nicolas Oppet, un commentaire sur ce qu'a dit Jean-Marie Collin et peut-être aussi sur le fonctionnement lui-même du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP.
On peut effectivement rappeler les grands principes du TNP. Le TNP est un traité qui a été conclu le 1er juillet 1960. C'est un traité qui engage la quasi-totalité de la communauté internationale. Quelques États sont manquants, l'Inde, le Pakistan et Israël, sachant que la situation de la Corée du Nord est un petit peu ambiguë. C'est un État qui s'est retiré du TNP en 2003, donc normalement il n'y est plus parti, sauf que le Conseil de sécurité est intervenu en 2006 pour imposer à la Corée du Nord le respect du traité malgré son retrait. Alors le traité est fondé sur un principe extrêmement simple, c'est un traité de cristallisation de la situation dissuasion nucléaire au 1er janvier 1967. Concrètement, les États qui avaient fait exploser une arme nucléaire avant cette date continuent à posséder le droit de disposer l'arme nucléaire, sachant que ceux qui ne l'avaient pas fait n'ont pas le droit de s'en doter. Alors, c'est un traité assez complexe parce que effectivement, c'est un traité qui a des contreparties en termes de transfert des technologies nucléaires, et c'est un traité qui a aussi des contreparties en termes de négociation, puisque en vertu de l'article 6 du traité, les États ont l'obligation de négocier de bonne foi pour globalement baisser la pression nucléaire et parvenir un jour à un désarmement général et complet. Je crois que c'est sur l'interprétation de cet article 6 que les difficultés les plus importantes se posent. Concrètement, un groupe d'États effectivement assez nombreux considère que cet article 6 finalement impose une obligation de résultat, mais les États dotés ne l'entendent pas de cette oreille, sachant qu'il est effectivement très très difficile de trouver des moyens coercitifs pour les contraindre à parvenir à un tel résultat.
L'article 6, et je parle sous votre contrôle, il prévoit un désarmement nucléaire négocié dans le cadre d'un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.
Oui, sachant que ici les conceptions sont totalement différentes. Par exemple, la position de la France est une position extrêmement exigeante qui finalement, si on la regarde bien, conditionne le désarmement nucléaire à un désarmement global. La position, par exemple, de la France, c'est de considérer que le désarmement nucléaire ne doit se faire au prix d'aucun sacrifice en termes de sécurité. Donc finalement, tant qu'il y aura des risques et que ces risques seront aussi bien conventionnels que nucléaires, la France finalement restera dans une position de maintien de sa propre dissuasion. Et j'ai l'impression que les autres États dotés sont finalement sur une position assez semblable.
Alors, Jean-Marie Collin, j'en viens à ma question. Comment demander aux États dotés de renoncer à leur force nucléaire lorsqu'existent quatre États qui en disposent hors TNP et ne semblent nullement engagés dans un processus de réduction de leurs propres armements ?
Alors, les quatre États, donc Israël, Corée, Inde, Pakistan, même si Nicolas Opel a rappelé la Corée dans une position un peu particulière, il y a un début d'initiative américano-coréenne. D'ailleurs, c'est dommage que ça soit que américano-coréenne. Ça devrait être plutôt la communauté internationale et la Corée du Nord qui est en route, qui a permis de réengager processus de dialogue, ce qui est positif. Maintenant, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'actes beaucoup plus concrets sur la dénucléarisation de l'ensemble de la péninsule coréenne, c'est-à-dire l'arrêt du parapluie nucléaire sans doute sur la Corée du Sud et bien évidemment la diminution et le démantèlement complet de l'arsenal nucléaire nord-coréen. Est-ce que l'Inde, l'Israël et le Pakistan posent le plus grand nombre de problèmes à ces cinq États? Non. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces cinq États sont les leaders des arsenaux nucléaires à travers la planète et n'engage pas du tout un processus pour avancer sur le désarmement nucléaire. Tous les États et toute la communauté des ONG reconnaissent et comprennent bien que le processus de désarmement nucléaire est quelque chose de compliqué, qui va prendre un certain nombre de temps. La question, c'est que ce temps est attendu déjà depuis 1968 ou 70, la date d'entrée en vigueur, voire, pour donner un peu de marge, depuis 1995 et depuis en fait l'année où on a décidé que le TNP était renouvelé de manière indéterminée et courait dans le temps. Le problème, c'est comme je l'indiquais, ces États renouvellent et modernisent leurs arsenaux nucléaires. Donc les moyens de pression, eh bien, c'est pour cela que sont arrivés à la conclusion de la mise en place d'un nouveau traité qui s'appelle le traité d'interdiction des armes nucléaires.
Le fameux Tian.
Exactement, qui est combattu par ces cinq États. D'ailleurs, c'est assez schizophrénique comme position, puisque ces cinq États se menacent mutuellement avec leurs arsenaux nucléaires, donc font courir une certaine insécurité sur nous, population civile, et en même temps se mettent d'accord pour combattre à la fois le Tian et pour ne pas avancer sur le désarmement nucléaire. Donc on est vraiment dans une position schizophrénique. Et donc le Tian est là pour créer une pression juridique, morale, éthique, financière, économique, sécuritaire sur ces cinq États, sécuritaire au sens de faire baisser l'insécurité. Et ça commence à porter un certain nombre de fruits et d'effets, puisqu'il y a des avancées sur le processus dans quelques années qu'il y aura au niveau de la Cour internationale de justice. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'institutions financières à travers le monde qui commencent à désinvestir auprès des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes qui vont porter les armes nucléaires. Il y a de plus en plus d'États qui sont signataires et qui ont ratifié ce traité. Aujourd'hui, on en est à 70 signatures, 23 ratifications, et on attend dans les prochaines semaines de nouveaux États qui ont déposé leurs instruments de ratification. Sans doute le traité entrera en vigueur fin d'année 2019, début 2020. Donc il aura mis à peu près 2 ans, grosso modo 2 ans et demi.
Il a été signé en juillet 2017.
Il a été adopté à l'ONU en juillet 2017 et il a été ouvert à la signature en septembre 2017. Donc on est dans un processus classique et normal de mise en place d'un tel traité. Donc voilà aujourd'hui les moyens de pression qui sont mis en place. Et puis on a un certain nombre de parlements à travers le monde qui s'interrogent véritablement aussi sur le besoin de faire avancer ce désarmement nucléaire. Voilà.
Alors quelques mots sur le Tian, puisque nous y sommes, et je me tourne vers vous Nicolas Oppet. Donc signé en juillet 2017, il a la particularité, ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, de mettre en avant les impératifs humanitaires qui devraient l'emporter sur tout autre argument stratégique.
Oui, alors c'est effectivement le biais qui a été utilisé dans le cadre de ce traité. Il s'agit de considérer qu'au fond, les armes nucléaires ne peuvent pas, dans leur utilisation, permettre le respect d'un certain nombre de principes essentiels du droit international humanitaire. Le principe qui prohibe les mots superflus et surtout le principe de distinction entre les civils et les militaires, les combattants. Je ne prononce pas sur le bien fondé de cette position, mais c'est le biais qui a été utilisé. Alors le Tian vise effectivement à interdire ces armes sur le modèle d'autres conventions. Finalement, dans ces techniques, le traité d'interdiction est assez proche du traité sur les mines antipersonnelles, assez proche du traité sur les armes à sous-munitions. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une arme n'est jamais interdite pour un État sans son consentement. Au fond, un traité, ce n'est quand il est signé, qu'une proposition d'interdiction. Il faut que cette option soit levée, soit par une ratification, soit par une déclaration unilatérale. Et ce qui est frappant dans le cadre du Tian, c'est l'originalité de cette démarche. Il faudrait en discuter, mais je pense que ces concepteurs savent parfaitement qu'un certain nombre d'acteurs, et finalement les acteurs concernés, c'est-à-dire les acteurs dotés, resteront en dehors du traité. Et comme le disait Jean-Marie Collin, l'objectif du Tian est moins juridique au sens classique du terme que véritablement relevant de la pression, c'est-à-dire au fond il s'agit de créer un groupe d'États relativement important qui est tenu par une norme qui n'a pas pour lui un grand intérêt parce que ces États ne sont pas dotés, mais qui mettra la pression sur les autres États afin que à la fin reste un groupe de petits minoritaires qui seront bien obligés de s'incliner. Il faut aussi dire une chose, c'est que il ne faut pas opposer de manière brutale 9 possesseurs et un groupe d'États qui serait, lui, uniforme, totalement composé d'États opposés à l'arme nucléaire. La réalité est un petit peu plus complexe. Effectivement, 122 États ont adopté. Malgré tout, 50 États manquent à la signature et le traité n'est pas encore en vigueur. Donc, et des positions très curieuses, qui pourraient paraître curieuses mais qui ne le sont pas. Par exemple, un État victime de l'arme nucléaire, tel que le Japon, est resté véritablement en dehors du processus. Il faut également rappeler que du côté des États de l'OTAN et de l'Union européenne, si je ne me trompe, seule l'Autriche est pour l'instant restée dans le traité, et des États qui ne possèdent pas d'armes nucléaires, mais qui disposent d'armes nucléaires tactiques sous le contrôle d'autres États, par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, la Turquie,
aussi.
Voilà, tous ces États, a priori, ne rentreront pas à court terme dans un tel traité. Donc la réalité est celle d'une communauté internationale fragmentée, même si effectivement des groupes d'États très importants, je pense que l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine sont très en pointe sur ce point, sont très favorables à l'interdiction complète.
Si je Jean-Marie Collin, oui. En fait, on peut pas dire que cette norme ne concerne pas l'écrasante majorité du monde et qu'elle n'apprend pas d'intérêt pour eux. Finalement, à ce moment-là, si on prend cette idée-là, Costa Rica et les armes sur les conventions chimiques ou bactériologiques ne présentent pas d'intérêt pour lui. Or, c'est totalement faux, justement. C'est ce qui fait la force d'une norme internationale, c'est que on demande à tous les États de leur allié. Donc, pour le Costa Rica, comme pour l'Autriche ou l'Irlande qui aujourd'hui sont signataires et vont ratifier le Tian, il y a un intérêt à interdire cette arme de destruction massive pour leur propre sécurité. Le processus qui a abouti à la mise en place de ce traité, c'est de faire prendre conscience aux États à travers la planète, avec la force du Comité international de la Croix-Rouge, que en cas d'explosion nucléaire, qu'elle soit volontaire en cas de guerre ou qu'elle soit accidentelle, c'est l'ensemble de la population de la planète qui en subirait les conséquences. Donc il y a bien une sécurité qui est recherchée pour tous et pas uniquement de façon individuelle.
Oui, mais Nicolas, ce que je veux dire par là, c'est que pour un État comme le Costa Rica, les obligations seront relativement légères.
Ah bah oui, ils n'ont pas d'armes nucléaires.
Voilà, ils n'ont pas d'armes nucléaires. nucléaire, donc elle le respecte d'une certaine manière déjà. Bien entendu, l'enjeu fondamental, c'est la question des États dotés.
Bien sûr.
Alors, pour en revenir au début de cette émission, en ce qui concerne cette réunion préparatoire TNP à New York, la prochaine échéance, c'est 2020, Jean-Marie Collin.
Oui.
2015 avait été un échec. Apparemment, les choses n'ont pas tendance à s'améliorer sur le front du TNP.
Oui, les choses n'ont pas tendance à s'améliorer. Voilà, mai 2020, c'est la conférence d'examen, donc c'est la conférence la plus importante qui a lieu tous les 5 ans. Ces 5 dernières années, les recommandations qui ont été proposées à chaque fois n'ont pas été approuvées par consensus, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord. Vous l'avez décrit au tout début de l'émission, avec les crises et les retraits des États-Unis, à la fois du traité INF, de l'accord du JCPOA, de l'absence d'action en termes de désarmement, puisque les États qui possèdent des armes nucléaires au titre du TNP s'étaient engagés en 2010, c'est pas il y a 30 ou 40 ans, hein, en 2010, de diminuer la place de la dissuasion au cœur de leur politique de défense, d'engager des processus unilatérales, multilatérales ou bilatérales sur le désarmement nucléaire, par exemple. Donc ça, absolument aucune mesure n'ont été réalisées. Et donc, c'est quasiment sûr et certain, malheureusement, qu'on se destine vers un échec de cette conférence du TNP, ce qui serait une première, 2 échecs successifs. Ça ne veut pas dire la fin du TNP, mais ça veut dire que le traité va perdre massivement en termes de crédibilité. C'est-à-dire que même quand il y a un accord, celui-ci n'est pas du tout respecté en 2010. Et en plus, de toute façon, on n'arrive pas à avancer sur ce processus-là. Donc là, c'est bien la sécurité de tout le monde qui va être mise en jeu l'année prochaine. Et c'est là-dessus où on appelle véritablement, notamment les parlementaires français, puisque nous sommes en France, à prendre conscience et à travailler, puisqu'on a une absence totale, je crois qu'il maintenant il faut le dire, une absence totale de la part des réflexions. Il y a eu un début des travaux qui ont été faits l'année dernière. Il devait y avoir une commission qui devait travailler dessus. On attend toujours la mise en place de cette commission. Donc il y a une nécessité que les parlementaires français travaillent activement, fassent pression, engagent un processus pour travailler sur ces questions-là et avec d'autres parlementaires internationaux.
Ce que vous demandez, c'est un débat au Parlement sur ces questions du nucléaire français.
C'est plus qu'un débat, c'est véritablement qu'il y avait des engagements de la France qui devaient être pris et réalisés en 2010. On peut comprendre que certains engagements sont compliqués, encore une fois, à mettre en œuvre.
Quelques exemples sur ces engagements?
La diminution de la place de la dissuasion nucléaire au sein de la sécurité de la défense. Aujourd'hui, la dissuasion voit son budget augmenter de 60%. On est passé dans le cadre de la loi de programmation militaire, c'est-à-dire qui a lieu entre 2019 et 2025. C'est-à-dire qu'on est passé d'un budget de 23 milliards à 37 milliards. On a l'ensemble des arsenaux qui vont donc être modernisés et renouvelés, donc des capacités pour aller plus vite en tout cas et atteindre certaines cibles. C'est de travailler là-dessus et de voir comment on peut sortir de cette problématique insécuritaire et trouver un nouveau processus de sécurité. Donc ça prend un peu de temps, mais si personne n'y réfléchit, s'il n'y a aucun débat, si on ne fait qu'alimenter les caisses de la dissuasion, il est sûr et certain qu'on ne pourra jamais en sortir. Et encore une fois, si on n'en sort pas, c'est la crédibilité du TNP qui est en jeu, c'est potentiellement sa fin, et si c'est pour faire un retour en arrière de 50 ans, où on sort véritablement de ce traité, là la question sera comment on assure véritablement notre sécurité, avec 10, 15, 20 États qui auront l'arme nucléaire.
Alors, il nous reste 1 minute 30 avant de terminer cette première partie d'émission, mais je vais vous demander, Nicolas Hoppet, un début de réponse. Dans votre ouvrage, vous évoquez la question de la laïcité de l'arme nucléaire, qui est un fort courant qui considère que l'emploi ou la menace d'emploi de l'arme nucléaire est en soi contraire au droit international. Quelle est la position de la France ?
Alors, la position de la France, c'est finalement qu'il est impossible de faire une théorie générale de la laïcité de l'arme nucléaire, que l'arme nucléaire se situe dans un emploi contextuel et que la proportionnalité, le respect du principe de distinction ne peut pas être perçu de manière abstraite. Il faut également signaler que la Cour internationale de justice a rendu un avis sur cette question le 8 juillet 1996 et sa réponse est extrêmement ambiguë. Je sais que l'interprétation peut prêter à confusion parce qu'au fond, la CIJ refuse de véritablement répondre. La lecture que je fais de cet avis, c'est qu'elle a malgré tout, et on peut le regretter, j'imagine bien que certains le regrettent, que la dissuasion peut être licite dans un certain nombre de situations, en particulier dans des situations légitimes défense dans laquelle la survie même de l'État est en jeu. Ce que je crois, c'est que la Cour internationale de justice a pu être aussi impressionnée par les enjeux de cette question, qu'elle a pu mener des stratégies d'esquive. Ce qu'il faut également signaler, c'est que les États dotés de l'arme nucléaire sont extrêmement réticent à confier à des juridictions internationales le soin de statuer sur ces questions. Donc, il n'y aura pas de réponse judiciaire ou juridictionnelle très nette sur ce point.
Merci Géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Nicolas Hoppay et Jean-Marie Collin, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la prolifération nucléaire. Nous retrouvons nos invités, Nicolas Hoppay, professeur agrégé de droit public à l'Université d'Orléans, collaborateur au Centre Thucydide de l'Université Paris 2, spécialiste de la dissuasion nucléaire et directeur de La France et l'arme nucléaire, paru dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Et Jean-Marie Collin, expert et porte-parole de la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN France, et chercheur associé au think tank GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Organisation basée à Bruxelles. Nous avons évoqué dans la première partie de démission ce retrait américain d'un traité de la guerre froide, le traité INF signé en 1987 qui interdisait les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5500 km, chemin suivi de peu par Moscou. On est très éloigné de la fin de la guerre froide qui avait permis à la Russie et aux États-Unis de réduire leurs forces nucléaires grâce notamment au traité New Start. Est-ce qu'on peut dire que le système international de contrôle des armements s'effondre, Jean-Marie Collin?
D'une certaine manière, oui, puisque le traité INF, c'était le seul traité qui bannissait totalement une catégorie d'armes nucléaires. Donc c'est la fin d'un pan de l'histoire de ce contrôle. Et donc on revient encore une fois sur la sécurité des Européens, puisque ces armes étaient destinées à viser les capitales européennes. Et donc ce qui pose un réel problème de sécurité pour l'Europe. Donc il est nécessaire aujourd'hui de voir comment on peut retravailler, puisqu'on a encore quelques mois, puisque officiellement la fin de ce traité c'est début août 2019, de voir s'il est encore possible de sauver ce traité, sans doute qu'il n'est plus possible de sauver ce traité, mais de voir ce que l'on peut faire à l'avenir, mais d'élargir le champ des acteurs, c'est-à-dire d'inclure obligatoirement les puissances, d'autres puissances nucléaires, d'essayer de travailler avec la Chine, mais d'essayer de travailler aussi avec la France, avec la Grande-Bretagne, de réunir en fait les cinq acteurs. Ce sera très compliqué, mais je pense qu'on revient au tout début de l'émission, il existe des traités comme le TNP, et on pourrait aller directement aux engagements qui avaient été demandés à travers ce TNP pour éliminer totalement ce type d'armement.
Nicolas Hoppay, un commentaire là-dessus, et peut-être posera la question de savoir si la Chine a joué un rôle dans la décision américaine de ce retrait.
Le retrait américain a été véritablement une grande surprise, je pense pour beaucoup d'observateurs, parce que personne ne regardait plus beaucoup ce traité qu'on pensait extrêmement stable. Alors, les justifications sont liées à des violations qu'aurait commises la Russie en développant des systèmes qui allaient au-delà des 500 kilomètres autorisés. Ce que l'on peut dire globalement, c'est qu'effectivement, l'architecture globale de sécurité, je dirais, en Europe est plutôt mal en point, à la fois sur le plan nucléaire et aussi conventionnel. Il ne faut pas oublier que le traité ciel ouvert, qui est un traité qui permet des missions d'observation, est lui aussi menacé. Le traité force conventionnelle, qui était vraiment le symbole de la sortie de la guerre froide, qui a été conclu en 1990, ce traité force conventionnelle est presque mort parce que la Russie s'en est définitivement retirée. Alors, il ne faut pas dire que sur le plan nucléaire, il n'y a plus rien, y compris entre la Russie et les États-Unis. Il faut se rappeler que le traité New Start, qui date de 2010, est encore en vigueur. Il a une échéance, 2021. Se posera la question de savoir si les autorités russes et les autorités américaines profiteront de la possibilité qu'offre le traité de le proroger de 5 ans. Mais ce traité, attention, n'est pas un véritable traité de désarmement. C'est un traité, finalement, de gestion des stocks. Ce que ce traité sur les vecteurs et les ogives interdits, c'est un déploiement d'armes qui peuvent par ailleurs être stockées.
Jean-Marie Collin, l'architecture de sécurité en Europe est mal en point. Nicolas Hoppay vient de le dire. Votre avis?
Oui, je le rejoins totalement. Et encore une fois, ça montre bien que les armes nucléaires posent un grave problème de sécurité. Donc pour remédier à ce grave problème de sécurité, il faut absolument que des acteurs qui clairement aujourd'hui sont beaucoup plus sensés, donc je pense aux Britanniques et aux Français, par rapport à notre allié américain qui pose un grave problème de sécurité à l'Europe en se retirant du traité FNI, en se retirant des accords de Vienne, en menant un certain nombre d'actions extrêmement négatives sur l'ensemble de la sécurité internationale, doit être posée, c'est-à-dire comment travailler en fait avec cet allié américain pour le faire revenir en fait dans un giron, dans un processus honnête et normal et de bonne foi de contrôle, de limitation et de désarmement nucléaire. Et c'est là-dessus où l'Europe est attendue aujourd'hui. Beaucoup d'États internationaux pensent que l'Union européenne a une position forte à jouer. Elle a su la jouer correctement lors des accords de Vienne en juillet 2015 pour obtenir un bon accord avec l'Iran, donc dans le cadre du JCPOA. Elle peut le faire dans le futur à nouveau, mais c'est maintenant certainement qu'elle a sa carte à jouer. Puisque on est dans une posture où on va vers quelque chose de totalement nouveau, un risque insécuritaire beaucoup plus grave que dans celui des années 60-70. C'est cette position-là.
L'Europe qui est assez incertaine hein, dans sa position face au JCPOA, qui est donc l'accord sur le nucléaire iranien. On va parler de l'Iran et on va parler de la Corée du Nord. Mais avant cela, Nicolas Oppet, Jean-Marie Collin évoquait l'idée que les armes nucléaires posent un problème de sécurité. De quelle manière les questions nucléaires peuvent conduire aujourd'hui, dans le monde, à des conflits?
Alors, elles peuvent théoriquement et pratiquement le faire de deux manières. Tout d'abord, le premier risque, c'est évidemment le risque d'une guerre nucléaire en tant que telle. Alors évidemment, les partisans de la dissuasion considèrent que ce risque est conjuré par la menace réciproque, mais effectivement, il n'y a pas eu de guerre nucléaire jusqu'à présent. On ne sait cependant pas de quoi est fait l'avenir et rien ne dit qu'il n'y en aura pas plus tard. Ce qu'il faut également signaler aujourd'hui, c'est que les questions nucléaires posent également des questions de guerre conventionnelle. C'est-à-dire que les enjeux de prolifération sont aussi aujourd'hui devenus des enjeux de conflictualité. Et des enjeux de conflictualité qui ne seront pas nécessairement nucléaires eux-mêmes. Clairement, les États-Unis envisagent une réponse militaire à un armement, ou envisageaient une réponse militaire à un armement nucléaire de l'Iran et de la Corée du Nord. Si par exemple, aujourd'hui, une guerre était déclenchée contre l'Iran pour l'empêcher d'obtenir la bombe, ce serait certainement une guerre conventionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de la conflictualité dans les questions nucléaires est beaucoup plus large que le seul conflit nucléaire. Aujourd'hui, on peut envisager des guerres de contre-prolifération.
Jean-Marie Collin.
Oui, on se doute bien que, sauf d'accident par erreur où l'on croit qu'un État est attaqué contre un autre, il y a eu des cas dans les années 80 par exemple avec ce fameux colonel Petrov qui voit arriver sur ses écrans radars en 83 des missiles américains alors que c'est une défaillance du système de satellite. On se doute bien qu'une guerre nucléaire ne va pas avoir lieu comme ça d'un instant à l'autre, qu'il y a évidemment une montée en tension, probablement une guerre conventionnelle et après une guerre nucléaire. Le risque d'envisager, en fait, puisque c'est bien ça, la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est à la fois je vous menace et je vous fais peur, donc c'est censé vous limiter, mais ça veut dire en même temps que j'envisage bien d'utiliser mon arsenal nucléaire contre des États, contre des populations civiles. Et donc c'est bien cet esprit-là, en fait, qui crée un sentiment international d'insécurité, de terreur, qui oblige les différents États à se préparer à répondre immédiatement, qui engage les États à être prêts à appuyer en premier sur le bouton. Aujourd'hui, on a toute une vraie problématique qui est en train de naître, qui n'existait pas il y a à peine une dizaine d'années. C'est la problématique de la cyberguerre, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, où on s'aperçoit, pendant la conférence du TNP, il y a eu un certain nombre de débats, on s'aperçoit en fait que dans le futur, c'est le premier qui devra prendre la décision, puisqu'on aura des informations extrêmement rapides, et qui pourra ne pas être tué en premier, et qui pourra abattre l'autre avec son arsenal nucléaire. Donc il y a des véritables risques aujourd'hui d'utiliser beaucoup plus rapidement que par le passé potentiellement des armes nucléaires, et donc de créer une vraie incertitude. Et on sait que c'est cette incertitude qui peut engager un certain nombre d'accidents internationaux extrêmement graves. Voilà, c'est ça qui est tenté, recherché à être éliminé à la fois par ICAN et par l'écrasante majorité du monde.
À cela s'ajoute, et je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, un certain flou, en tout cas un flou qui est de plus en plus important, entre les armes conventionnelles et les armes nucléaires, étant entendu qu'une arme à double usage, utilisée avec une charge conventionnelle, risque et peut être confondue avec une arme atomique et donc provoquer une riposte nucléaire. Il y a cela qui s'ajoute également.
C'est surtout, à mon avis, sur la question des vecteurs, parce que les vecteurs sont vraiment des technologies à double usage. Par exemple, dans le traité FNI, on a, dans l'imaginaire et dans la réalité, le traité FNI est lié à la question des euromissiles, donc à des questions nucléaires. Aujourd'hui, il n'est pas certain que les questions balistiques posées par ce traité soient nécessairement liées à des questions de charge nucléaire, parce que un vecteur peut avoir un emport nucléaire ou conventionnel. Et sur le FNI, il faut aussi rappeler l'importance de la Chine, qui est très...
Alors justement, quel poids la Chine a-t-elle joué dans la décision américaine de se retirer du traité INF,
alors,
Jean-Marie Collin?
C'est l'une des raisons qui est avancée par les États-Unis, de dire que la Chine n'est pas dans ce traité. Effectivement, elle n'est pas dans ce traité, puisque ce traité a été fait en 87 et que la Chine, à cette époque, n'était pas partie à ce traité, n'avait pas un certain nombre de missiles qui sont aujourd'hui interdits, donc c'est tout à fait logique. Donc les États-Unis disent que ça met en cause la sécurité à la fois de leurs alliés plutôt que eux, puisque la distance géographique de ces missiles qui est interdite ne peut pas atteindre les États-Unis. En fait, se pose véritablement derrière une autre question, c'est à qui profite le crime ? Est-ce que ça profite véritablement pour la sécurité ou est-ce que ça profite à des industriels qui sont en recherche aujourd'hui de construire beaucoup plus d'armes et donc d'obtenir un certain nombre de contrats. On s'aperçoit sur ces 6 derniers mois, une étude vient d'être réalisée par une ONG hollandaise qui s'appelle PAX, que le nombre de contrats, le nombre de millions ont été de façon exponentielle réalisés, proposés par ces entreprises qui sont Raytheon, par exemple, Boeing et d'autres, sur la mise en place de nouveaux systèmes d'armes. Donc ça pose aussi la question de savoir voilà à qui profitent ces investissements, qui permettent de gagner de l'argent sur potentiellement la destruction de notre environnement planétaire.
Alors, autre élément concernant toujours la sortie américaine et russe du traité INF, c'est finalement l'impact sur la question du nucléaire iranien et sur celle de la Corée du Nord. Vous avez une réponse, Jean-Marie Collin ?
Oui. C'est la confiance qui pose problème.
Oui, c'est effectivement cette ambiance. On sait que l'ambiance est depuis toujours très compliquée. Le sujet est très compliqué, mais... Cette politique américaine aujourd'hui qui est réalisée depuis 2 ans et qui court encore sur 2 prochaines années, voire potentiellement encore sur 4 années suivantes, risque de créer des dégâts tels qu'il en faudra peut-être 15 ans ou 20 ans pour pouvoir revenir à une situation presque normale. Et donc ça pose un véritable problème. Donc les alliés aujourd'hui, l'Europe, la France, doivent véritablement se poser la question de savoir si son allié américain est là pour lui apporter une sécurité ou en tout cas lui créer une insécurité totale. Et c'est certainement sur ce deuxième point.
Nicolas Hoppet.
C'est un sujet effectivement très difficile. Comment se positionner par rapport aux États-Unis, sachant qu'ils sont effectivement nos alliés, mais que c'est un allié de plus en plus, non pas incontrôlable, mais de plus en plus incertain, oui.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la question iranienne et le questionnement que pose pour l'Europe, quelle attitude finalement adopter. C'est assez compliqué. Et quelques mots sur la Corée du Nord. Qu'est-ce que l'on peut dire de la portée de sa force nucléaire et quelles sont finalement les intentions de Pyongyang?
Alors, je n'irai pas sur les intentions de Pyongyang parce qu'elles sont sans doute compliquées à décrypter. Ce qui est certain, c'est que ce régime cherche à assurer sa sécurité et sa vie sur le long terme. Son arsenal nucléaire aujourd'hui est estimé à 10 ou 12 d'armes nucléaires. Voilà, ça doit tourner autour de ce chiffre-là. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que sans même son arsenal nucléaire, Pyongyang dispose de capacités extrêmement importantes pour détruire les villes, et notamment Séoul, qui se situe de façon extrêmement près de la frontière, de la zone de démilitarisation. Donc ça, c'est important à le noter quand même. Sur le cas de l'Iran, on est dans une problématique extrêmement forte, puisqu'on accule véritablement en fait l'Iran dans un coin, et qu'on ne laisse aucune possibilité à cet État de sortir de ce coin, avec le risque que le régime bascule de façon vers un extrémiste extrêmement fort. Aujourd'hui, il y a une crise économique très très grave en Iran, donc on pourrait, si on se met à la place d'un Iranien, comprendre qu'il demande finalement que son régime réponde de façon forte à une agression extérieure. Le JCPOA était le meilleur des systèmes aujourd'hui pour garantir que cet État bascule vers une ouverture de plus en plus démocratique, et c'était le cas. L'Europe jouait bien son jeu, mais l'Europe aujourd'hui est extrêmement frileuse, n'ose pas dire grand mot, n'intervient pas de façon pleinement coopérative avec la Chine et la Russie, qui doivent être dans ce cas-là véritablement des alliés pour assurer la vie de ce JCPOA. Donc on est dans une situation dangereuse.
Alors, oui. Nicolas Hoppet.
L'Iran et la Corée du Nord sont d'abord dans une situation totalement différente l'une de l'autre. L'Iran, d'abord, c'est un État qui n'a jamais admis, finalement, qu'il avait un véritable programme militaire nucléaire, tandis que la Corée du Nord est clairement sortie du TNP. C'est un problème. Alors, que cherchent ces États? On peut le voir de 3 manières. Il faut choisir. D'abord, on peut dire que ces États sont des éléments, enfin, la terminologie de la stratégie, des fous, c'est-à-dire des acteurs irrationnels qui seraient capables d'agresser en première intention d'autres États, sachant que ça signifie à leur première fin. Ça peut être des États qui cherchent une sanctuarisation c'est-à-dire une défense, une assurance vie contre une attaque conventionnelle ou nucléaire dont ils pourraient faire l'objet. Il faut rappeler que ces États ont pour point commun d'avoir été placés à un certain moment dans l'axe du mal. Ça peut être aussi une stratégie intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'on fait de la sanctuarisation agressive, c'est-à-dire non seulement sanctuariser son propre territoire, mais obtenir des marges de manœuvre à l'extérieur pour pouvoir nuire à des voisins ou à des rivaux.
Jean-Marie Collin, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, sachant que l'Iran, à la différence de la Corée du Nord, pour continuer, n'a pas d'armes nucléaires et est entouré d'un certain nombre de puissances nucléaires. Israël en premier, quand même, ce qui est important de mentionner, qui est assez proche, la Russie aussi, des bases de l'OTAN de façon très proche, des forces militaires américaines extrêmement importantes, tout comme au niveau de la Corée du Nord. Donc voilà, c'est le chapitre global. Et effectivement, si l'Iran n'a jamais admis, il y a eu des preuves qui montrent qu'elle a travaillé sur un programme nucléaire militaire, mais que ce programme nucléaire militaire est totalement arrêté. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirme depuis plusieurs années que l'Iran respecte ses engagements et qu'il n'y a aucun lieu de douter de ses engagements et de ses actions, puisque les contrôles sont extrêmement importants.
Oui, je crois même que l'administration américaine elle-même a signifié au président Trump que l'Iran respectait bien ses engagements. Et il faut également le signaler, je pense qu'il n'appartient pas à un État unilatéralement de dénoncer un traité, enfin d'un traité qui n'est pas un traité, un accord, le fameux accord de Vienne du 14 juillet 2015, un accord qui a été validé par le Conseil de sécurité, endossé par le Conseil de sécurité, et il me semble que seul le Conseil de sécurité peut défaire ce qu'il a fait.
Alors, il y a un mot qui revient beaucoup dans l'ouvrage que vous avez dirigé, Nicolas Hoppet, je le rappelle, La France et l'arme nucléaire, aux éditions Biblis, éditions du CNRS, c'est unilatéralisme, l'unilatéralisme qui prévaut de plus en plus. Un commentaire ?
L'unilatéralisme, d'abord, je crois que c'est l'essence même de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que je crois que la dissuasion nucléaire est le signe qu'un État ne s'en remet qu'à lui-même, qu'à sa propre puissance militaire pour assurer sa propre sécurité. Et je crois que pour les internationalistes, spécialistes du droit international, l'ordre nucléaire est un ordre assez perturbant, car il crée peut-être, à côté du système de la Charte des Nations Unies, une sorte d'ordre juridique parallèle qui fonctionne selon ses propres lois. Alors après, les différents acteurs nucléarisés peuvent être plus ou moins unilatéraux, plus ou moins multilatéraux, et le meilleur signe de tout cela, ce sont les engagements juridiques. Malgré tout, même du temps de la guerre froide, il y a eu des engagements juridiques, et parfois des engagements juridiques extrêmement impressionnants. Qu'on songe par exemple au traité ABM de 1972, un traité anti-balistique, sur les systèmes anti-balistiques, les systèmes anti-missiles. Au fond, ce traité, c'est un traité qui dit que les territoires des États doivent finalement être disponibles aux armes de l'adversaire. C'est une manière de cristalliser la dissuasion nucléaire. Ce sont des engagements très forts. Et c'est sur ces points-là, aujourd'hui, que les choses sont en train de véritablement dégénérer. Quand on évoque la question nucléaire, il faut à mon avis séparer la question du risque de guerre nucléaire, je pense qu'il est malgré tout modéré aujourd'hui, de la question de cette architecture globale de sécurité qui, elle, est effectivement en crise et qui, dans son démantèlement, signifie deux choses. Tout d'abord, c'est le signe d'une mauvaise ambiance sur le plan international. C'est le signe aussi que des erreurs d'interprétation ont créé malgré tout un risque accru en sortant de ces systèmes multilatéraux.
Alors, quelques mots, Jean-Marie Collin. Ce que m'évoque la réponse à l'instant de Nicolas Hoppet, finalement, armes conventionnelles d'un côté, armes nucléaires de l'autre. Est-ce que, dans les motivations à acquérir l'arme nucléaire, il y a la faiblesse en termes d'armes conventionnelles ?
Oui, c'est une évidence. Les armes nucléaires sont des armes extrêmement puissante, sans commune mesure avec la plus importante des armes conventionnelles qui peut aujourd'hui exister. Donc c'est essentiel de le rappeler évidemment à chaque fois, qui ont des effets sur du très long terme en cas d'utilisation. Des Japonais qui ont subi les armes nucléaires ou les personnes qui ont subi les essais nucléaires en subissent encore les effets aujourd'hui sur la santé et sur les générations futures et sur l'environnement, bien évidemment. C'est bien pour ça que ces armes sont appelées des armes de destruction massive, et c'est bien ce qui fait craindre le risque de leur utilisation, que ça soit entre l'Inde et le Pakistan, par exemple. Je rappellerai simplement qu'il y a quelques mois, il y a eu des craintes extrêmement importantes sur cette possibilité d'utilisation. Lorsqu'il y a un an, il y a eu une alerte sur Hawaï d'un missile qui arrivait, qui était une fausse manœuvre de sécurité, d'un système de sécurité interne aux États-Unis, la population entière s'est dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et en fait, tout le monde s'est rendu compte que c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc c'est bien aujourd'hui, avant l'utilisation ou le risque de cette utilisation, qu'on doit combattre cet arsenal nucléaire.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci,
merci beaucoup
à nos invités. Jean-Marie Collin, je rappelle que vous êtes expert et porte-parole de la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. ICAN France et chercheur associé au think tank GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Nicolas Hoppet, professeur agrégé de droit public à l'Université d'Orléans, collaborateur au Centre Thucydide de l'Université Paris 2, spécialiste de la dissuasion nucléaire et directeur donc de La France et l'arme nucléaire, paru dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.